journal Marion Lourd. Bonjour Marion.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous. À la une ce matin, rajeunir et renouveler notre relation avec l'Afrique. L'objectif du sommet Afrique-France à Montpellier aujourd'hui, présidé par Emmanuel Macron, qui n'est pas venu les mains vides, vous l'entendrez. Vous entendrez aussi l'indignation d'SOS Racisme. Information France Inter ce matin, dans le secteur du bâtiment, près d'une agence d'intérim sur deux serait prête à sélectionner des candidats selon leur origine. Dans ce journal encore, sidération à Centrale Supélec au lendemain des révélations. Une centaine d'agressions sexuelles et viols dénoncés sur le campus du prestigieux établissement. Rester lucide face à l'inhumanité, c'est le mot d'ordre de votre invité ce matin, Jérôme.
Oui, question à la professeure de philosophie Marilyn Maezo. Elle publie « La petite fabrique de l'inhumain », un essai sur les traces d'Albert Camus pour comprendre comment nos renoncements, nos petites compromissions du quotidien conduisent à la déshumanisation et préparent les fléaux de l'époque, épidémie ou attentat. Pour dialoguer avec elle, 01 45 24 7000.
Du positif à suivre avant ça dans cette édition, l'optimisation fiscale des entreprises n'a qu'à bien se tenir. L'Irlande accepte enfin le principe d'un impôt mondial à 15%. Les Bleus retrouvent leur superbe remontée épique et victoire finale hier de nos footballeurs contre la Belgique en Ligue des Nations. Et puis, elles sont partout. Elles servent à tout ou presque. Les algues règnent d'une exposition parisienne. À la fin de cette édition, on vous dévoile quelques-uns de leurs secrets.
France Inter.
Un sommet France-Afrique, 3000 participants dont 1000 jeunes, mais zéro chef d'État africain. C'est un événement inédit qui se tient aujourd'hui à Montpellier. La société civile en vedette, surtout les jeunes, avec des thèmes comme la démocratie, mais aussi l'adaptation au changement climatique. Réalité déjà douloureuse sur le continent africain, manque d'eau, baisse de rendement des cultures. Au Burkina Faso, certains tentent de s'adapter. Reportage France Inter de Faustine Calmel dans une ferme agroécologique du village de Youda.
Une soixantaine de femmes travaillent ici une terre ocre et sèche, 2 hectares où le changement climatique a déjà ses effets.
Je parlais tantôt de la baisse de la nappe phréatique qui est un véritable problème.
Constant Zango est le coordinateur de l'ONG ATAD.
Parce que pour la production, il faut surtout de l'eau. Donc dans le village, les sols sont devenus beaucoup plus arides. On ne les colle pratiquement pas.
Moins de maïs, moins de mil, moins de sorgho, d'autant que la saison des pluies est de plus en plus courte, constate Flora Zongo, étudiante agronome.
Ça commence tard et ça finit très tôt. Il a fait plus de 10 jours sans pleuvoir. Vraiment, ça donne pas bien. Maintenant, pour les mesures d'adaptation, on peut dire qu'on essaie vraiment de s'impliquer dans la maraîchiculture avec les barrages, les puits. On produit en fait les légumes.
Depuis quelques années, des tomates, des aubergines, des épinards poussent ici en contre-saison l'hiver. Une production que ces femmes vendent au marché. Petit complément de revenus. Autre solution, l'hydroponie, culture hors sol pour faire pousser de quoi nourrir les animaux, explique Léa Wedraugo, chargée de projet dans cette ferme de Louda.
Et on l'a utilisé pour les caprins et les ovins et on a vu que l'appétence y était. Et l'eau qui est issue de la production est recueillie pour faire un jardin potager juste à côté.
Une nouvelle approche indispensable dans un pays où 80% de la population vit de l'élevage et de l'agriculture.
Pas de chef d'État africain, mais le président français, lui, sera bien là. Il préside ce sommet et n'arrive pas les mains vides. Yannick Falt, le chef de l'État, va annoncer un fonds de soutien, justement, pour les acteurs de la société civile.
C'est un fonds d'innovation pour la démocratie que va annoncer cet après-midi le chef de l'État. 30 millions d'euros débloqués sur 3 ans. Pour soutenir la société civile, chef d'entreprise, responsable associatif, artiste, sportif, miser sur le terrain, les acteurs du changement et pas uniquement leurs dirigeants, promouvoir les initiatives innovantes en matière d'accès à la justice, lutte contre la corruption, transparence des institutions, formation aux droits civiques, violence à l'égard des femmes ou des jeunes filles aussi. C'était l'une des propositions du rapport d'Achille Mbembe, intellectuel camerounais qui a été chargé de préparer le sommet. Une nouvelle étape dans la relation franco-africaine, espère l'historien et philosophe, et un changement de méthode. Ce fonds ne sera pas directement piloté par l'AFD, l'Agence française de développement, mais par un comité composé de personnalités africaines et françaises, notamment issues de la diaspora. Montpellier, Yannick Falt, France Inter.
Le sommet France-Afrique ou comment nous réinventer pour maintenir une influence sur ce continent, ce sera le thème de la chronique de Pierre Aski à 8h17 sur France Inter.
C'est une information inter, la discrimination est toujours une réalité dans les agences d'intérim.
Malgré les récentes procédures judiciaires, cette pratique perdure, notamment dans le secteur du bâtiment. C'est ce que révèle un testing téléphonique réalisé par des militants de l'association SOS Racisme qui se sont fait passer pour des chefs d'entreprise en mai dernier. Résultat, près d'une agence contactée sur deux accepte leur demande fictive d'une sélection de candidats d'origine européenne. Dominique Sopo, président d'SOS Racisme.
Des personnes au bout du fil acceptent, parfois sont un peu plus hésitantes et demandent évidemment qu'il n'y ait pas de traces, que ça se fasse à l'oral, parce qu'en réalité, les gens savent bien que les discriminations raciales, c'est interdit par la loi. Et pourtant, malgré cette connaissance qu'on est face à un acte délictuel, dans 45% des cas, il y a soit des professionnels qui vont accepter de faire le tri, ou qui vont dire aux entreprises, faites-le.
Dominique Sopo, notre invité à 6h20 ce matin, interview à réécouter sur franceinter.fr avec des documents sonores édifiants. Information qui arrive dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs. Nouvelles mesures pour y faire face. La ministre du Travail annonce une prime de 1000 euros pour certains chômeurs, ceux qui accepteraient de se former en entreprise sur les métiers qui recrutent. Prime versée en deux fois, la moitié au début, l'autre à la fin de la formation. Derrière la façade de la prestigieuse école d'ingénieurs, les soupçons de viol et d'agression sexuelle. Le parquet d'Evry vient d'ouvrir une enquête préliminaire à Centrale Supélec après que le questionnaire en ligne d'une association a révélé une centaine de viols et d'agressions sexuelles en un an sur le campus, presque autant de faits de harcèlement. Sandrine Etoa-Andeg s'est rendue à Gif-sur-Yvette dans l'Essonne. Elle a rencontré des étudiants sidérés.
J'étais vraiment surpris par l'ampleur de tout ça et ça m'a extrêmement choqué.
Voilà ce que répète sur le campus la majorité des étudiants interrogés, comme Victoire en master.
Ce qui est assez inquiétant, c'est de se dire que malgré toutes les campagnes de prévention, malgré l'accompagnement qui est proposé, il y a encore ce type d'acte qui arrive et également que la parole ne se soit pas libérée plus tôt.
Parmi les victimes, 20 femmes et 8 hommes ont déclaré avoir subi un viol, des actes commis dans la majorité des cas par d'autres élèves et dans la résidence étudiante gérée par un bailleur privé, selon la direction. Bertie et Ouma ne sont pas surprises.
Pour moi, la majorité se fait en soirée. L'année dernière, ensuite, avec le confinement, les soirées étaient un peu clandestines. Les soirées clandestines qui se font en résidence au lieu de se faire dans les bâtiments où elles sont encadrées et prises en charge.
Aucun contexte ne peut justifier ces actes.
Fulmine Mohamed.
Toute personne qui a participé de proche ou de loin à ces actes devrait être traînée en justice si possible.
La justice qui permettra peut-être d'identifier les victimes et les potentiels agresseurs. Les témoignages sont pour l'instant tous anonymes. Ibtissem Amish, président de l'association SAPES, qui a réalisé l'enquête.
Si le questionnaire donne la force ou l'envie à certaines personnes de s'exprimer et de dire ce qu'elles ont subi, je pense que l'école est prête à les accompagner et l'affaire sera suivie.
L'école se portera partie civile pour tout dépôt de plainte.
Libérer la parole aussi au sein de la communauté catholique. Toujours, la loi de la République s'impose aux lois des églises, affirme le ministre de l'Intérieur. Une réponse aux propos polémiques du président de la Conférence des évêques de France. Éric de Moulin-Beaufort avait déclaré que le secret de la confession était plus fort. Tous les deux en parleront mardi prochain. Un ancien Premier ministre qui divise la majorité. Édouard Philippe annoncera dans les prochaines heures la création de son parti politique. Le maire du Havre rassemble ses soutiens. Aujourd'hui, dans sa ville, il annoncera demain le nom de la nouvelle formation et son projet. Et pendant ce temps, la droite recrute. Afflux de militants chez les Républicains à deux mois d'un congrès décisif pour désigner le candidat à la présidentielle. Au choix, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Éric Ciotti, Philippe Juvin et peut-être Xavier Bertrand. Pour désigner le préféré, les adhésions se multiplient souhaitement.
7000 adhésions en 10 jours, 150 rien que ces dernières 24 heures. Les compteurs s'affolent chez les LR. À deux mois du rendez-vous fatidique du congrès, ils sont désormais plus de 86 000 militants à jour de cotisation. Pour qui roulent ces nouveaux adhérents? Valérie Pécresse, Michel Barnier, Éric Ciotti, Xavier Bertrand, même s'il n'est pas sûr qu'il sera candidat. Impossible de le dire. Le secret est bien gardé. Ça augmente. Aucune leçon à en tirer à ce stade. Coupe court la direction du parti. Dans chaque état-major ou presque, on affiche pourtant un grand sourire. Chez les pécressistes, où on a demandé au soutien d'adhérer en masse, on croit savoir que la moitié des nouvelles adhésions viennent d'Île-de-France, région présidée par la candidate. Dans le camp Barnier, au contraire, on a scruté les chiffres en Savoie et en Haute-Savoie, région d'origine du candidat, et on se félicite d'une poussée des adhésions. Silence radio en revanche des amis de Xavier Bertrand. Faut-il y voir un mauvais signal? On est beaucoup trop dans le brouillard pour penser aux militants, se désespère un sénateur.
La politique européenne, c'est cette question ce matin. Après le Brexit, va-t-on vers un pôle-exit? Ça se pose presque en ces termes avec le bras de fer qui oppose depuis hier Varsovie à Bruxelles. Un tribunal constitutionnel polonais a jugé hier certains articles des traités européens contraires à la constitution polonaise. L'Union rappelle la règle, primauté du droit européen, et elle se dit prête à utiliser tous les outils pour la faire respecter, y compris le levier financier.
France Inter, 8h10. Les entreprises qui pratiquent l'optimisation fiscale ont de quoi s'inquiéter.
Les GAFA, géants de l'Internet mondial, peuvent trembler. La perspective d'un impôt mondiale sur les entreprises n'a jamais été aussi concrète. L'Irlande, terre privilégiée d'optimisation fiscale avec sa faible imposition, accepte de relever son taux. Il a fallu 3 mois de négociations, mais ça y est, le verrou irlandais a sauté, sous condition tout de même. Correspondance à Dublin, Emeline Vin.
Une décision difficile, mais juste, selon le ministre des Finances irlandais. De l'OCDE, Pascal Donohoe a obtenu une concession. Alors que le texte initial prévoyait un impôt sur les sociétés d'au moins 15%, le ministre s'est débarrassé de ces deux petits mots « au moins », vecteur, selon lui, d'incertitude pour les multinationales en Irlande. De son côté, Dublin aussi fait des compromis en renonçant à son taux d'impôt sur les sociétés très bas, à 12,5% actuellement. L'Irlande risque de perdre en attractivité et en recettes fiscales, 2 milliards d'euros en moins, selon le ministère des Finances. Pascal Donohoe l'admet, il n'était de toute façon pas viable pour l'Irlande de rester en dehors d'un accord signé par 140 pays, trop dommageable pour l'influence et les relations commerciales de la petite île. La hausse du taux d'impôt sur les sociétés, à 15% donc, devrait concerner quelques 1500 multinationales, parmi lesquelles les géants du numérique Google, Apple et Facebook. L'entrée en vigueur de l'accord dépend encore de l'approbation du texte par le Congrès américain, divisé sur le sujet. Dublin. Emeline Vin, France Inter.
Accord international discuté justement aujourd'hui par les pays de l'OCDE. Attention, Big Brother au volant. Les routes françaises seront bientôt sillonnées par des voitures radars confiées à des entreprises privées. Véhicules équipés de flashs infrarouges invisibles pour traquer les excès de vitesse. Le dispositif déjà testé dans plusieurs régions doit être généralisé l'an prochain, façon sans doute de redresser les recettes des radars routiers en forte baisse par rapport à 2017. Direction maintenant, le fond des mers. Elle vous dérange peut-être parfois pour la baignade, mais elles sont indispensables à la biodiversité et nous aident bien au quotidien. Je parle des algues, bien sûr, enfin récompensées de leur discrète utilité puisqu'elles ont pour la première fois leur expo à l'aquarium de la Porte Dorée à Paris. Célia Kiré s'y est plongée.
On a beau être dans un aquarium, l'expo commence dans une cuisine. Lynn Le Gall est maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle.
Le frigo est un lieu qui cache de nombreuses algues. On va les retrouver notamment dans des flancs, des entremets. Il y a aussi des mayonnaises.
Et les algues rouges, par exemple, contiennent autant de protéines que le soja. Il y a des algues dans la peinture, dans le terreau. La visite se poursuit dans la salle de bain.
On n'imagine pas, quand on se lave les dents tous les matins, que l'agent texturant de la pâte dentifrice, c'est souvent des algues.
Ces algues contiennent des fibres flexibles, elles rendent les crèmes plus agréables, sont présentes dans des médicaments et au-delà de leurs usages pour l'homme, elles sont indispensables pour l'écosystème marin.
C'est le premier maillon de la chaîne alimentaire. Elles vont assurer une végétation sous-marine qui va abriter toute une faune. En d'autres termes, elles servent de gîte et de couvert à beaucoup d'organismes marins.
Et d'ailleurs, ces grandes algues marines stockent autant de CO2 que les forêts tropicales. Or, elles sont soumises à différentes pressions. Il faut les protéger.
Malheureusement, on a certaines algues sur lesquelles les pressions sont extrêmement fortes, dont les populations diminuent drastiquement. Les forêts de cystosaires, qui sont des algues très communes en Méditerranée, diminuent de plus en plus parce qu'il y a des infrastructures portuaires qui se mettent en place, de plus en plus de pollution le long de nos côtes.
Et en ce moment, les algues sont particulièrement menacées par la hausse de la température de l'océan.
Exposition à voir jusqu'au 4 septembre 2022. Pas de sortie du pass sanitaire avant le 15 novembre. Le gouvernement a suivi hier l'avis du Conseil scientifique. France Inter se l'est procuré. Et les sages préconisent aussi de ne pas mettre fin au sésame territoire par territoire, mais de différencier la levée de cette restriction en fonction des types de lieux plus ou moins à risque.
Eux étaient en pleine santé hier soir.
Les footballeurs de l'équipe de France, auteurs d'une remontada fantastique face à la Belgique, menée 2-0 à la mi-temps, victorieux finalement 3-2 et qualifié pour la finale de la Ligue des Nations. Ça n'étonne pas pourtant le sélectionneur Didier Deschamps.
À part moi, je pense pas qu'il y avait beaucoup de personnes qui pouvaient penser qu'on allait renverser cette situation. On l'a fait, c'est le mérite des joueurs. Il y a la qualité, il y a le mental. Les fois où il y a eu à avoir des situations compliquées comme ça, il y a toujours cet état d'esprit, cette force de caractère. En plus de la qualité qui est là, parce qu'il y a la qualité pour inverser la tendance.
Didier Deschamps avec Cédric Guillou, finale de Ligue des Nations France-Espagne, ce sera dimanche à 20h45. Allez, c'est le moment de ronronner de plaisir pour saluer le retour de Black Sad, félin bien connu des amateurs de BD. Le détective privé à tête de chat n'avait pas donné de nouvelles depuis 8 ans. Le revoilà avec Alors tout tombe, polar animalier dans le New York des années 50. Signé toujours Juan Diaz-Canales au scénario et Juan Hero Guardino au dessin. Album feuilleté pour France Inter par Amélie Perrier.
Tout le génie de cette bande dessinée, c'est d'humaniser des animaux. Un corps d'homme et une tête de fouine, d'ours, de dindon ou de goéland. Une manière de croquer des caractères grâce au talent du dessinateur Guarnido.
C'est une expérience narrative mélangeant un genre aussi vieux que la fable et un genre aussi moderne que le polar.
Ainsi, les ouvriers qui creusent les souterrains du métro de New York sont des souris et des taupes et sur leur syndicat plane la menace de la mafia des belettes.
Bon, il s'agissait justement des animaux qui sont des petits prédateurs, qui sont justement ceux qui attaquent des animaux de terrier, des rongeurs, des lapins, des taupes et des souris qui représentent les travailleurs du métro.
Une plongée dans un New York en pleine révolution urbaine où les grands capitalistes misent sur la voiture et les ponts suspendus à 12 voies au détriment des transports en commun et d'un théâtre en plein air dans Central Park. Des clins d'œil aux fractures de nos sociétés contemporaines, clins d'œil aussi à Edward Hopper, au jazz de Sinatra ou encore à Marlon Brando dans les traits du héros Black Sad, un chat racé.
Au niveau du nez, au niveau de la mâchoire, ce côté masculin, séducteur, en même temps doux, très félin, finalement. Je cherche à faire en sorte qu'il ressemble de plus en plus à Marlon Brando.
Une enquête haletante dont on ne découvrira le dénouement que dans la deuxième partie, à paraître en 2023.
Et sur cette ère de Sinatra, Jérôme, je n'aurai qu'un mot, miaou.
Pas mal. Journal sans chat dans la gorge de Marion Lourd, ou presque.
Presque.
La météo Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Euromaster, toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Marie-Pierre, attention aux brouillards, ils sont nombreux ce matin.
Et oui, Jérôme, comme à cette époque, hein, quand l'anticyclone regonfle et que la nuit a été claire, les brumes se sont formées au lever du jour sur les Hauts-de-France, vers Mulhouse également, en Baie-de-Somme, mais aussi en Bretagne comme autour de la Loire et de la Garonne. Mais après la dissipation de ces brouillards, vous retrouverez le soleil et puis on a toujours cette poche plus nuageuse entre l'Auvergne-Rhône-Alpes en remontant vers l'Alsace et puis autour de la Méditerranée. Vous avez pu voir le soleil se lever sous un vent un petit peu moins fort. Il fait frais actuellement, seulement 2 degrés à Aurillac, 4 sur les Ardennes, 5 à Guéret au Mont-de-Marsan, 7 à Lille, 8 à Langres, 10 à Toulon comme à Paris, 14 à Quimper et 19 à Menton.
Et un après-midi qui sera bien ensoleillé.
Oui, le beau temps va gagner pratiquement tout le pays avec un ciel souvent tout bleu, à peine voilé et quelques nuages élevés n'altérant pas l'impression de beau temps. Et ça va durer comme ça jusqu'au week-end. On aura quand même toujours cette poche de grisaille de l'Auvergne aux Alpes et sur l'est de la Corse, le ciel va s'ennuager de nouveau donnant des averses. Et il va faire doux, 17 à Lille et Lyon, 18 à Strasbourg, Granville et Aurillac. Vous aurez 19 à Paris comme à Biarritz, 21 à Brest comme à Nîmes, 22 Montpellier et Bastia, 24 à Narbonne et 26 à Saint-Tropez. À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Merci Marie-Pierre. 8h18, géopolitique.